Je m'appelle Francis Allais. J'ai passé ma vie en forêt à regarder naître, vivre et mourir les arbres. Je voudrais, avant qu'il ne soit trop tard, vous faire partager ce voyage de toute une vie, l'histoire des arbres, des grandes forêts des tropiques.
Après la marche de l'empereur et le renard et l'enfant, Luc Jacquet revient avec un tout nouveau long métrage, Il était une forêt, un film qui nous invite à découvrir de façon inédite des forêts tropicales primaires. De la première pousse de la forêt pionnière au développement des liens entre plantes et animaux, ce ne sont pas moins de 7 siècles qui vont s'écouler sous nos yeux, et pour la première fois, on assiste à la naissance d'une forêt tropicale avec émerveillement. Sur une idée originale du botaniste Francis Allais, ce film témoigne du patrimoine naturel que sont les forêts tropicales primaires, un des enjeux écologiques majeurs, véritable poumon vert garant de la vie sur Terre. Une plongée exceptionnelle dans ce monde totalement sauvage, en parfait équilibre où chaque organisme, du plus petit au plus grand, joue un rôle essentiel. Ce film était présenté en avant-première du Arras Film Festival 14e édition. Entretien avec Luc Jacquet qui nous tisse les lianes et les branches de ce très instructif documentaire. Vous avez rencontré le botaniste Francis Allais lors de l'inauguration d'un parc d'attractions, je crois, c'est ça ?
C'est bien ça, oui, c'était le parc Terra Botanica à Angers.
Et donc, vous pouvez nous expliquer un peu votre collaboration avec lui et le processus d'écriture du scénario ?
En fait, c'était vraiment une sorte de cri d'alarme que Francis Allais m'a transmis lors de cette rencontre, dans le sens où c'est quelqu'un qui a consacré sa vie aux forêts primaires, aux forêts tropicales primaires, et qui vient me voir un jour en disant « Voilà, ça fait 50 ans que j'étudie ces forêts, je n'imaginais pas que dans l'espace de ma vie, je les verrais disparaître. Aujourd'hui, je sais que dans 10 ans, il n'y en aura probablement plus. J'aimerais garder une trace, j'aimerais garder un témoignage de ces grandes et dernières belles forêts sauvages. »
Alors, techniquement, j'imagine que faire entrer des arbres gigantesques dans le cadre d'une caméra, même la plus perfectionnée, c'est pratiquement impossible. Comment avez-vous travaillé avec vos machinistes et vos caméramans pour optimiser au maximum ces plans ?
Je crois que une des grandes difficultés de tourner en forêt, c'est d'arriver à transmettre au spectateur le gigantisme de ces arbres. Quand vous êtes dans la forêt, vous êtes littéralement fasciné, happé par ces troncs puissants, cette sensation de fardage, de pesanteur extraordinaire qu'ont ces troncs. C'est des êtres qui sont pratiquement millénaires. Et l'idée, c'était d'arriver à amener cette dimension-là dans une salle de cinéma où malgré tout, vous n'êtes qu'en deux dimensions. Et donc, on a effectivement inventé des systèmes de caméras sur câble qui nous permettaient finalement de voir les arbres presque à hauteur et d'être capable de partir du sous-bois comme ça et de nous envoler jusqu'à la canopée pour éprouver, pour comprendre ce que c'est qu'un arbre de 80 mètres. Un chiffre, ça ne parle jamais, ce n'est jamais un véhicule d'émotion. Alors que là, bah effectivement, cet outil, l'arbre à câble, nous a permis de faire des plans tout à fait extraordinaires, en tout cas jamais vus, quoi.
Et vous avez conçu donc vos propres caméras, si je comprends bien ?
On n'a pas conçu les caméras, mais on a conçu les outils de machinerie qui nous ont permis de fixer des caméras qui, elles, étaient existantes.
Les lieux de tournage, vous avez tourné au Pérou, au Gabon, dans des parcs nationaux. Alors pour les prises de vue en milieu naturel, vous vous êtes restreint à une zone spécifique ou vous vous êtes laissé guider un peu par la forêt elle-même ?
On a beaucoup repéré ce film, mais vous savez, la forêt a ceci de compliqué qu'elle est difficile d'accès. Malheureusement, ces grandes et dernières forêts tropicales sauvages sont très très éloignées, donc c'est toujours des cheminements. Pour vous prendre un exemple, on a tourné au Pérou. Le premier village était à 7 heures de pirogue. C'était un défi à la fois logistique, c'était aussi un défi de cinéma qu'il a fallu combiner. La forêt a vraiment cette singularité qu'elle est extrêmement riche. Et je me suis aperçu très vite, dans les tout premiers repérages, qu'il fallait absolument que j'ai un scénario très précis pour raconter cette forêt. Puisque quelle que soit l'échelle à laquelle vous allez porter votre regard, il y a quelque chose qui se passe. Que vous soyez dans un centimètre carré ou dans 100 km carrés, vous allez avoir une perception de la forêt qui est différente et vous allez découvrir des processus et des animaux qui sont différents, des végétaux évidemment qui sont différents. Donc il m'a fallu un guide. Et c'est tout le travail de scénarisation que j'ai fait en écoutant Francis Allais, en écoutant ses collègues scientifiques, pour que j'arrive à finalement toucher presque l'universel. Qu'est-ce qui est finalement le lien entre ces différentes forêts ? Qu'est-ce qu'il est essentiel de connaître ? Et je crois que la singularité de la proposition qu'on a fait avec Francis Allais, c'était vraiment de faire passer le spectateur dans le point de vue des arbres. Et quand vous arrivez à rentrer dans ce monde qui nous est finalement pas autorisé, puisqu'on ne vit pas assez longtemps pour voir pousser les arbres, mais quand vous poussez cette porte-là, vous découvrez un monde qui est tout simplement prodigieux.
il y a dans chaque graine la promesse d'un géant. Mais il va lui falloir des siècles pour rejoindre le ciel. On les croit immobiles, mais les arbres sont de si grands voyageurs qu'ils traversent même les océans. On les croit silencieux, mais ce sont de si grands séducteurs qu'ils sont même capables de charmer les nuages. Mais dans leur course effrénée vers la lumière, ils peuvent devenir des guerriers féroces, capables de faire chuter les plus grands.
En ce qui concerne les conditions de tournage, prendre en compte les caprices de la météo, s'il y en a eu, la proximité avec certains animaux dangereux et d'autres vénéneux, comment ça se passe? Comment ça se gère ça?
Je crois que fondamentalement, quand on fait ce genre de film, c'est qu'on aime la nature, c'est qu'on aime être en nature. Je crois que c'était le point commun aussi de toute l'équipe qui s'est déplacée sur ce tournage. Il fallait combiner l'excellence du tournage de cinéma et l'expédition, c'est-à-dire travailler dans un milieu très compliqué malgré tout, très complexe. Effectivement, dans le voisinage d'éléments dangereux, hein, on a été avec les éléphants de forêt, on était avec les gorilles, on s'est fait charger un nombre copieux de fois. On a travaillé avec des jaguars près de nous, on a travaillé avec des serpents effectivement potentiellement extrêmement dangereux. Bah voilà, quand vous êtes dans la nature, la belle nature, vous, c'est, je dirais, c'est la conséquence naturelle de ces espaces qui sont encore protégés. Je crois que c'est ce qui nous plaît. Je considère ça plus comme un privilège que comme une contrainte d'une certaine manière.
Avec votre équipe de tournage, vous avez également emmené des artistes, des photographes, des plasticiens, des sculpteurs, des peintres, des illustrateurs, graffeurs. Donc je suppose qu'il y a des expositions qui vont venir compléter votre témoignage cinématographique.
Il y a effectivement des expositions qui ont été mises en œuvre. Il y a eu aussi surtout un parti pris de travailler avec le web et énormément de documents en open source qui est très très fort. Sur le site de mon association wild-touch.org, vous allez effectivement avoir beaucoup de choses qui sont destinées à la pédagogie, aux enfants. Je crois qu'aujourd'hui, on ne fera avancer cette cause que si on est capable de s'adresser aux enfants. Et c'est ce jeu auquel s'est prêté Francis Allais justement pour pouvoir s'adresser au plus grand nombre. On a aussi proposé une aventure web en immersion avec le site il était une forêt-expédition.org pour que chacun finalement puisse à sa guise presque se promener sur le tournage et suivre tel atelier et finalement découvrir la forêt aujourd'hui de plus de 500 manières différentes. Je crois qu'aujourd'hui il faut étendre le débat, on est sur des sujets qui sont complexes, on est sur des sujets qui intéressent le bien commun, qui intéressent finalement tous les êtres humains sur cette planète. Je crois qu'il ne faut pas se restreindre à un seul véhicule d'émotion qu'est le cinéma, mais je crois qu'il faut élargir le débat le plus largement possible pour que chacun puisse s'approprier ça. Je crois aujourd'hui que ces forêts ne seront préservées que si on est capable de s'en émerveiller, de s'en approprier. On ne détruit pas quelque chose qu'on a compris, qu'on aime, et c'est tout le pari qui est fait avec ce film.
Film qui s'inscrit dans une démarche globale de sensibilisation à l'environnement, on l'a bien compris. A-t-il été montré éventuellement aux sociétés et entreprises de déboisement ?
Non, malheureusement, enfin, je vais faire une avant-première à Libreville, au Gabon, cette fin de semaine prochaine. Évidemment, des forestiers seront là. Je crois qu'aujourd'hui, quand vous regardez à l'échelle locale ou à l'échelle du bûcheron, vous avez une contrainte économique qui est évidente, qui à la limite est inattaquable. Et quand vous regardez à une échelle plus vaste, on sait aujourd'hui que ces forêts font partie du patrimoine de l'humanité, du bien commun. Et je crois qu'aujourd'hui, tout l'enjeu est de trouver un niveau de décision politique qui permette, quel que soit l'endroit où on se place sur la planète, de protéger ces lieux qui sont encore une fois indispensables à la survie de notre espèce. Nous venons de la forêt. Nous priver de ces lieux dans lesquels on a évolué, dans lesquels on est né, et c'est à mon avis prendre énormément de risques. Ça, c'est un défi à la fois politique et philosophique qui nous attend pour les années qui viennent, qui est considérable.
D'ailleurs, en même temps, une équipe de tournage qui est balancée comme ça en plein milieu d'une forêt tropicale, je suppose aussi qu'il y a un geste écologique qui est fait de la part des techniciens. Vous avez aussi fourni des éléments pour que justement tout soit respecté.
Ouais, je crois qu'aujourd'hui, on travaille avec des équipes de films qui sont extrêmement sensibilisées, hein, puisque c'est des gens avec qui j'ai l'habitude de travailler, donc qui connaissent... On fait des films qui ont du sens, donc à un moment, il est même plus dans le débat de se dire on va faire attention, puisqu'on est là pour ça, on est là, et du coup, on est les premiers acteurs de ce genre d'action, de respect, je dirais, par rapport à la nature. On avait aussi Francis Allais qui était sur le tournage avec nous, donc Francis était... Je crois que tout le monde a saisi tout de suite pourquoi on était là. Et je crois que le personnage de Francis, avec sa légitimité, a cristallisé tout ce respect qu'on pouvait avoir pour la forêt. Et je crois qu'on est arrivé à un niveau d'empathie avec les plantes après 4 mois de tournage qui était tout simplement incroyable. Parce que Francis nous a amenés là aussi. Il nous a dit « Regardez, intéressez-vous, regardez, c'est prodigieux. » Et je crois que tout le monde a marché.
Il apparaît aussi également dans le film comme guide. C'était prévu dès le départ, ça, ou bien ça a été finalement décidé par la suite ?
Non, c'était une intention très forte, puisque ce film, pour moi, est d'abord une mise au service d'un grand scientifique, d'un grand penseur, d'un grand humaniste aussi. Et je trouve qu'il incarnait sa propre légitimité, c'est-à-dire qu'il aurait fallu passer par des méandres dramaturgiques complexes pour amener un acteur à jouer son propre rôle, alors que je crois que là il y a une authenticité, il y a encore une fois une légitimité qui est portée par Francis lui-même. C'est lui qui nous raconte la forêt, c'est son point de vue avant tout, et c'est ce qui m'a paru finalement essentiel, mais très très vite, hein, dans l'écriture du scénario, que ce soit lui qui incarne son propre rôle.
On ne peut pas passer à côté du travail qui a été fait également en studio avec les incrustations des images de synthèse. Comment vous avez travaillé en post-production pour ça ?
Oui, ça c'est un énorme travail qui a été fait par les studios MacGuff, qui sont aujourd'hui les meilleurs studios en France, hein, qui ont fait des choses comme Moche et Méchant, enfin, qui sont aujourd'hui des gens qui sont en pointe sur ces questions-là. Pour moi, l'animation, c'était une manière de passer dans le temps des arbres, de transgresser ce temps très long qui nous interdit à nous autres, êtres humains, de voir bouger les végétaux, alors qu'on sait tous qu'ils sont parfaitement vivants. Donc c'était un défi à la fois narratif mais aussi artistique. On a énormément travaillé. Pour moi, je n'avais pas envie d'aller mettre les images d'animation en concurrence avec les images naturelles, puisque je savais très bien, vu la beauté de ces forêts, l'animation serait en retrait. Alors j'ai préféré assumer ce caractère essentiel qu'ont les botanistes, c'est-à-dire ce savoir-faire de dessinateur, cette capacité de raconter en dessinant, qui a été effectivement extrapolé tout au long de ce film pour nous faire passer dans le temps des arbres. On rêve tous de voir un arbre qui s'épanouit devant nous, comme ça, comme si on pouvait traverser les siècles. Le dessin et l'animation nous ont permis de faire ça.
Et en même temps, ça permet aux spectateurs de voir les arbres et les végétaux vivre en même temps que le film se tourne.
C'est vraiment le pari de ce film, c'est d'arriver à montrer que les arbres sont avant tout de prodigieux êtres vivants qui ont des stratégies absolument incroyables, mais qui sont tellement complexes et qui sont tellement différents de nous qu'on a tendance à ne pas les voir ou ne pas les comprendre. On sait aujourd'hui que les végétaux communiquent entre eux, sont capables d'attirer des prédateurs de leurs prédateurs, ont des stratégies qui sont tout simplement prodigieuses. Je crois qu'il y a là, on est à l'aube de grandes découvertes sur le génie végétal. Ça, c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai voulu transmettre aux spectateurs. J'ai été le premier spectateur de cette histoire-là, et j'ai voulu vraiment... Enfin, ce capital d'émotion, pour moi, m'a permis finalement de relever ce pari de cinéma qui est de faire un film sur les arbres.
Dernière question, la musique, qui est aussi très importante, hein, c'est elle qui permet de rythmer le film. Vous avez travaillé avec Éric Neveu, c'est aussi lui qui a confectionné tous les petits bruitages qu'on entend derrière.
Il y a un travail au son qui est considérable sur ce film. Puisque le son, j'aime beaucoup travailler le son, moi, de manière beaucoup plus impressionniste que naturaliste. C'est vraiment un poste dans la post-production qui m'intéresse beaucoup. Il y a eu un soin de détail sur ce film qui, je pense, dépasse de loin tout ce que j'ai pu faire au cinéma. C'est à la fois le sound design, c'est à la fois le travail sur les sons naturels, c'est à la fois le travail de mixage, et c'est bien sûr tout le travail qu'a fait Éric Neveu. C'est un tour de force qu'il a réalisé là, puisque la musique est narrative au même titre que la voix. C'est vraiment quelque chose qui doit permettre d'appréhender l'émotion de ces forêts. Et Eric a vraiment fait un travail formidable sur ce film.
y a des millions d'années, nous sommes nés là, dans les plus hautes branches de la canopée. Mais nous l'avons oublié.